Chez nous, les gens se regardent vivre, respirent l'un pour l'autre, l'un face à l'autre. Un seul regard n'est qu'une moitié d'homme, il faut être au moins deux sur les chemins de la vie. Nous avons besoin de vivre, de passer le temps, avec une forme de scène très active, où les gens se font valoir les uns les autres, où ils fournissent, comme on dit là-bas. Être un fournisseur, c'est-à-dire un être théâtral, qui joue et qui joue donc sa vie, est extrêmement important. C'est en tout cas l'occasion de donner ses rêves en partage, d'être considéré pour ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on rêve d'être. Simone Schwarzbart est ce soir notre invitée à l'occasion de la nouvelle édition d'hommage à la femme noire qu'elle avait co-signée avec son époux André Schwarzbart. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ça sera avec Billie Holiday, qui est dans l'hommage à la femme noire, Strange Fruit. Nous venons d'entendre Strange Fruit, c'est dans ce recueil qui est republié ces jours-ci, qui s'intitule Hommage à la femme noire, que vous avez coécrit avec votre mari André Schwarzbart et qui n'a pas pris une ride. Vous écrivez ceci, Simone, à propos de Billie Holiday. Vous dites cette chanson, sans doute l'une des plus célèbres de son répertoire, c'est une rumeur d'agonie. Et vous dites qu'elle la chante en état de possession, soulevée par l'expérience de tout un peuple. Et quand je vous lis, ou quand je vous relis, Simone Schwarzbart, j'ai l'impression que vous aussi, quand vous écrivez, vous êtes portée par l'expérience immémorielle de tout un peuple.
C'est l'expérience ce sont les vies de toutes ces personnes oubliées de l'histoire. Ne serait-ce que cet hommage à la femme noire, qui est une déclinaison de concentrés de vie qui n'ont pas été toujours jugés dignes d'apparaître sur la scène publique. C'est depuis le début, il s'agissait tout simplement d'ancrer ces histoires dans la mémoire de leurs descendants, dans la mémoire de ceux à qui l'on avait retiré la mémoire de l'histoire. C'est enfin l'entrée de toutes ces personnes en défilé magnifique et somptueux, leur présence, enfin, qui apparaît sur la grande scène de l'histoire universelle. Parce que ce ne sont pas seulement des histoires de femmes noires qui manquent aux femmes noires, ou des histoires en général que nous avons écrites ensemble ou séparément. Ce sont des histoires humaines, tout simplement, qui manquent à l'humain et à l'humanité. Et c'est en cela que toutes ces histoires manquantes créent des ruptures dans la structuration même de la personne. Quand les gens ne savent pas, comment dire, n'ont pas, si vous voulez, la possibilité de s'inscrire dans la coulée du temps avec un marquage de référent, c'est en fait les personnes qui les ont précédées et les personnes qui vont arriver et qu'elles vont, à qui elles vont communiquer ce qu'elles sont elles-mêmes à leur tour pour pouvoir leur permettre d'être à la fois dans le passé et de se projeter dans le futur, parce que c'est cela, être dans le présent. C'est à la fois avoir un ancrage dans le passé et se projeter dans l'avenir. Et pour ce faire, il faut avoir une Bible, il faut avoir une galerie d'ancêtres, il faut avoir un carnet de figures, de visages, de vie, d'avant. D'avant quoi? D'avant l'avant, du début. Parce que il faut que vous sachiez que cette encyclopédie, nous commençons présentement à faire, à commencer par les héroïnes de l'esclavage, parce que c'est une époque qui est particulièrement en résonance avec ces thèmes, avec toutes ces héroïnes manquantes et puis ces histoires en fait de la diaspora, de ces héroïnes de l'esclavage montrent bien de façon glorieuse à quel point ces femmes ont résisté de manière ordinaire, parce que ça n'était pas des commandants de quoi que ce soit, c'était des esclaves ordinaires en résistance chaque fois. Cette espèce de grand balayage à travers la planète, montre que il y a eu des femmes qui ont été des marronnes, donc dès le début. Elles ont été des princesses du Congo, par exemple. Il y avait des princesses qui venaient du Congo au Brésil et qui ont été faites, qui ont été raptées, et qui ont été faites esclaves au Brésil. Tout cet arc caribéen a été irrigué aussi de combats magnifiques. Il y a eu Zabet en Haïti. Il y a eu Panza au Suriname. Il y a eu Solitude en Guadeloupe. Il y a eu Nani en Jamaïque. Sans compter toutes les héroïnes que l'on connaît un peu mieux d'ailleurs, ces héroïnes américaines. Ce tome, ce volume premier. Nous avons voulu ce volume premier avec ces héroïnes de l'esclavage parce que l'époque le voulait. Mais il faut savoir que l'édition originale, l'histoire commence à partir de Lucie. Tout le monde connaît Lucie. L'histoire en fait commence à Lucie
donc à l'aube de l'humanité.
À l'aube de l'humanité, pour dire que toute la souche humaine descend de la souche africaine en réalité. Voilà, à Lucie, les prophétesses, les reines africaines, les conquérantes de royaumes. Enfin, vraiment, c'est nous avons besoin de rassembler tout ce que nous avons comme héritage grandiose pour pouvoir nous poser et nous présenter au monde.
Alors, ce volume qui, au départ, qui est une encyclopédie, hein, avec 6 volumes, est republié aujourd'hui, 30 ans plus tard. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il correspond à notre époque de maintenant, à cette nécessité que nous ressentons de connaître l'histoire de l'esclavage, de pouvoir reconnaître des individus et non pas une masse humaine qui a été déportée. Et tout d'un coup, l'éclairage est mis par vous, Simone, sur ce peuple anonyme qui n'a pas eu droit à sa propre histoire. Et j'ai l'impression que cette reconquête de l'individualité à travers ses portraits est extrêmement importante aujourd'hui.
Mais elle est nécessaire parce que, voyez-vous, nous assistons aujourd'hui, effectivement, nous assistons à une dépossession différente à travers les médias, les médias qui bombardent, je ne sais même pas comment tout cela s'appelle. Je suis en dehors de tout, de tout ce monde virtuel, toutes ces, je ne sais même pas, hein, je ne sais pas,
oui,
comment
faut que vous nous disiez où vous habitez, parce que là j'ai la chance de vous rencontrer parce que vous faites un voyage éclair en France, mais vous habitez dans un endroit merveilleux, coupé de tout réseau.
Oui, coupé volontairement de tout réseau et je n'ai pas
à la Guadeloupe.
À la Guadeloupe, oui, à Guayave, dans un petit village qui s'appelle Guayave. Mais il faut comprendre également que étant donné tout ce déferlement qui en fait désancre tout de nouveau et d'une autre manière cette population qui n'a pas encore en fait de véritable d'identité tout à fait trouvée, tout à fait formée, tout à fait présente. En fait, quelquefois, nous doutons, il nous arrive à nous autres Antillais, de douter même de la réalité de notre histoire, parce que peut-être avons-nous raison, hein, de douter de temps en temps et de penser que les choses peuvent disparaître d'un moment à l'autre. puisque, étant donné que nous habitons ces contrées, entre un cyclone, un tremblement de terre et les sargasses et je ne sais trop encore quel bombardement extérieur, nous avons pris l'habitude d'avoir un peu de sagesse au sujet et de questionner donc la réalité des choses.
Par exemple, si je vous demande, oui, à vous, Simone Schwarzbach, de faire votre arbre généalogique, il remonte jusqu'où?
Oh là, je crois que si je voulais faire mon arbre généalogique, peut-être qu'en allant au Mémorial Act, c'est un musée, le musée pour les abolitions de l'esclavage en Guadeloupe. En tous les cas, si je voulais connaître peut-être mon arbre généalogique, faudrait-il me diriger dans cette cathédrale des âmes qu'est ce Mémorial Act. Mais comme ça, de but en blanc, je vous dirai tout simplement que mon arbre généalogique remonte tout simplement à mes grands-parents. Voilà, c'est de toutes les façons. Je crois que peu d'entre nous peuvent remonter jusqu'à leur ancêtre premier, celui qui est arrivé sur ces terres. Donc nous ne pouvons que rêver. James Baldwin disait ne laissez personne vous dire ce que vous êtes, et j'ajouterai ne laissez personne vous dire ce que vous voulez être, ce que vous rêvez d'être, parce que justement c'est en construisant ces littératures, c'est en construisant ces personnages, en les présentant avec leur visage, leur sang, leur histoire, leur complexité et leur couleur, c'est en allant au plus profond sur une culture d'ailleurs que nous présenterons nous ferons apparaître une histoire. Une histoire que les hommes pourront reconnaître et qui entrera par ce biais du sang, de la proximité, du détail qui rentre. Ces histoires rentreront dans leur propre histoire, dans leur propre ADN. En fait, nous étions convaincus que par la connaissance des cultures se construiraient des passerelles vers d'autres imaginaires qui aboutiraient à enrichir l'humain en quête d'humanité.
Et c'est ce que vous faites.
Oui.
Quand vous étiez petite, Simone,
oui, Laure,
votre mère vous prenait dans les bras, comme toutes les mères, sauf que votre mère pleurait sans arrêt en vous berçant. Pourquoi pleurait-elle tout le temps?
Elle pleurait sans arrêt parce que elle se sentait orpheline sur la terre. Comme vous savez, il y a aussi sous toutes ces certaines héroïnes du blues de ces musiques noires qui chantent et qui disent je me sens sometimes I feel like a motherless child. Eh bien ma mère se sentait like a motherless child parce qu'elle en était une. C'était une orpheline qui s'est sentie en fait non pas seulement orpheline mais un peu abandonnée de Dieu, abandonnée aussi des hommes à cause même de la guerre et qui lui prenait son mari, qui l'éloignait et donc elle pleurait parce que elle ne savait pas si un jour ou l'autre elle le reverrait, cet homme qu'elle avait épousé et qui et avec qui elle n'avait vécu qu'une année.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, nous écoutons Mahalia Jackson, Move On Up, c'est une des héroïnes d'Hommage à la femme noire de André et Simone Schwarzbart.
Be there, yes, when the angels sing.
Vous restituez magnifiquement dans cet ouvrage, Simone Schwarzbart, l'histoire extraordinaire de Mahalia Jackson, qui au départ était une bonne repasseuse. Elle repassait les chemises d'hommes pour pas beaucoup d'argent, et puis un jour, elle a été prise comme l'émissaire de Dieu, je crois qu'on peut dire ça, puisqu'elle a toujours dit qu'elle chantait du gospel et pas du blues. Et ce que nous venons d'entendre, là aussi, vous en expliquez les raisons. Elle s'adresse à Dieu en chantant, et son adresse à Dieu est plutôt celle de l'espoir, plutôt que celui du désespoir.
Mais oui, quand on entend la force de ses chants, la voix de Mahalia Jackson tout spécialement, on entend tout simplement, on est soulevé, on entend la douleur, mais on entend la transfiguration de la douleur. Nous entendons qu'il y a quelque chose de plus haut qui l'emmène ailleurs et qui se transforme en force de la joie. Qu'elle nous inonde d'une joie pure qui nous enlève à notre condition terrestre et qui nous emmène beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et elle a une force dans sa voix de nous transporter comme cela, et je le ressens chaque fois, j'ai la chair de poule chaque fois que j'entends cette voix de Mahalia, et je pensais que si un jour j'aurais une fille, je l'appellerais Mahalia.
Alors à cause d'elle. Vous avez eu deux fils, dont un qui est un grand musicien reconnu partout dans le monde et qui vit en ce moment aux États-Unis, Jacques Schwarzbart, qui ne chante pas mais qui fait du jazz admirablement. Donc il est, oui, il est pas très loin non plus de votre histoire.
Non. Mais ce qui est
extraordinaire dans l'histoire de Mahalia Jackson, c'est qu'elle n'a jamais cessé d'être une militante de la cause noire. Elle était très proche de Luther King. Elle l'a accompagné jusqu'au bout. Et quand il a été assassiné, qui a chanté pour Luther King? C'est encore elle.
Oui, en effet. Oui.
Donc cette histoire, elle est tissée de résistance. Elle est tissée de volonté de ne pas oublier une histoire commune. Elle est tissée aussi, je dirais, d'une forme de chamanisme. Tout à l'heure, vous avez parlé des héroïnes qui ressurgissent dans l'inconscient collectif et qui ont une histoire, qui ont une force de résistance qui peut être transmise, et sans doute pas assez, à l'intérieur des manuels d'éducation des petits-enfants. Mais il y a aussi chez vous, et en vous, plus particulièrement, Simone, une force mémorielle qui fait que, même si vous ne connaissez pas l'histoire de vos arrière-grands-parents, puisqu'ils étaient esclaves et que vous ne connaissez pas leurs prénoms, eh bien, ça vous a peut-être donné la possibilité d'avoir à l'intérieur de vous une force narrative. Vous parlez à la place d'autres que vous n'avez jamais connus. Et là, vous avez parlé de Mulâtresse Solitude, dont votre mari André Schwarzbart avait fait un chef-d'œuvre. Mais il y a aussi un chef-d'œuvre écrit uniquement de vous, qui est Télumé Muracle, Pluie et vent sur Télumé Muracle. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que vous avez subi dans votre peuple et dans votre histoire collective et cette force un peu de la tradition orale qui tout d'un coup fait de vous une sorte d'oracle?
En fait, ces personnes que je voyais vivre devant mes yeux d'enfant, ces personnes qui étaient de vrais flambeaux, et qui aussi ces personnes qui vivaient dans plusieurs univers. C'est cela aussi la richesse de cet univers créole, c'est-à-dire qu'il y a il y a ce qui se passe sous les yeux de tous, et il y a ce qui se passe derrière les yeux. Il y a tout un monde dont on fait allusion, par exemple en dans les conversations, et qui s'installe tout naturellement, un monde magique qui agrandit chaque fois la réalité. Les gens ne se contentent jamais de vivre en aplat. Ils sont en survol. Ils dépassent, et en cela, ils dépassent leur histoire. Toutes ces personnes que l'on peut voir et que l'on peut que l'on voudrait plaindre ne sont pas du tout à plaindre. Ce sont des personnes qui ont plusieurs vies. Ce sont des personnes qui ont une sorte de croyance et qui ont établi entre elles une manière de vivre, une manière de se parler de rêve à rêve, et de continuer, de ne pas briser les rêves de qui que ce soit, d'être dans le tempo du rêve. Et c'est cela qui, en fait, est quelque chose d'assez exceptionnel et de merveilleux. Il y a tout de suite la notion de merveilleux qui s'installe. En fait, t'es lumé miracle. Quand je regarde maintenant la chose qui est terminée, ce roman qui est terminé, je vois la créolisation avant la créolisation. Je vois que le langage qui est utilisé, c'est un langage créole. Je n'en fais pas une théorie. Mais j'utilise spontanément cette langue pour être fidèle au personnage dont je parle, dont je rapporte l'histoire. Il y a cela. Mais il y a tout le monde créole qui passe dans ce récit. C'est-à-dire, vous avez un conte. Vous avez également toutes les tous les proverbes, qui sont contenus dans la langue créole même, puisque il y a beaucoup de secrets. Cette langue est une langue secrète, bien souvent. C'est-à-dire que elle aime rester quelquefois dans le flou, pour laisser à l'interlocuteur la possibilité de se retourner. Nous ne sommes pas dans un corset, nous ne sommes pas dans un carcan, on est dans un vêtement ample, on danse, nous aimons rire, nous aimons la vie. Mais c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à partir de cette histoire, sinon rire pour pleurer, chanter pour crier et vivre, puisque le désir secret c'était que nous ne survivions pas. Eh bien non, nous prouvons avec une joie débordante, un vitalisme sans faille, que nous sommes là, que nous sommes présents et que nous donnons au monde. Nous apportons au monde notre quote-part. Notre quote-part, ça n'est pas rien, toute cette musique. La musique, c'est tout simplement un cadeau de Dieu. C'est ce que, justement, c'est l'histoire de Dieu qui donne à tous les êtres humains, selon leur aux Indiens, selon leur provenance. Et aux Indiens, ils donnent telle chose. Aux Blancs, ils donnent la richesse. À d'autres ethnies. Mais ils nous oublient dans l'affaire. Nous n'avons rien. Il oublie de nous appeler. Il oublie de nous donner. Et quand il s'aperçoit qu'il a oublié, qu'il nous a oublié, alors il nous fait signe. Venez, venez. J'ai quelque chose pour vous. Et quoi, disons-nous? On vous donne la musique. il pensait que c'était un piètre cadeau, puisque c'était la chose ultime qu'il léguait. Mais en fait, nous en avons fait quelque chose qui est un langage sans mots et qui enveloppe le cœur des hommes sans aucune parole.
Alors, des paroles, il y en a eu, il n'y a pas très longtemps, au moment des 20 ans de l'abolition de l'esclavage. Il y a eu notamment la parole de Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice. Je vous propose d'écouter sa réaction à propos du silence de notre président de la République. C'était le 11 mai 2021, c'était sur France Culture.
Concernant le silence du président de la République, alors un silence peut être solennel. Ceci étant, il est quand même édifiant de constater que le président de la République n'a rien trouvé à dire sur plus de deux siècles de l'histoire de la France, alors qu'il y a 5 jours, il faisait des gammes sur Napoléon Bonaparte. Donc on a le droit d'avoir les fascinations qu'on veut. Ceci étant, même lorsqu'on a le culte des héros, c'est une époque qui ne manque pas de figures héroïques, et à cette époque même de l'empereur Bonaparte, pour ma part, je choisis et je préfère le général Toussaint Louverture, la capitaine Sani de Belair, le colonel Louis Delgrès, Solitude, Marie-Rose Toto, les chefs Pompée, Bonny, parce qu'ils se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage et contre l'esclavage, et qu'ils y ont perdu leur vie. Parce que cette histoire, ça n'est pas une histoire de poésie à 4 sous, avec des rimes sur l'empire et le pire, ou l'empereur et le meilleur. C'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de sang et de canon, c'est une histoire de plantation, de fortune, de commerce, de château, c'est une histoire d'humanité. Mais effectivement, on peut ne rien avoir à dire sur cette histoire.
Comment jugez-vous les propos toniques de notre ex-ministre de la Justice, qui est aussi écrivaine, Christiane Taubira? Parce que quand je l'entends, j'ai l'impression de retrouver vos héroïnes à l'intérieur de votre hommage à la femme noire.
Ce sont les nôtres, et qui mieux que nous pouvons en parler, pouvons les communiquer au monde entier. C'est à nous de faire le travail. Tant pis.
À vous. Oui. Vous voulez dire avec la langue créole, la langue française.
Non, mais aussi
à nous tous.
Nous, à nous autres en particulier, et à tous de reprendre et de remettre cette histoire dans la coulée, tout simplement, de l'histoire universelle des hommes. Voilà ce que moi je pense, et le travail se fait. Mais voyez, il y a 86 histoires de femmes noires dans cette encyclopédie, et Prince qui est mort, le grand prince américain, quand il est mort, sur son pupitre, il y avait ces tomes d'hommage à la femme noire, In Praise of Black Woman. Ça parle au peuple, aux noirs américains, ça parle à notre communauté, et ça va parler également à d'autres tout simplement qui veulent tout simplement accepter aussi à leur côté cette histoire.
Alors justement, est-ce que les choses ne sont-elles pas en train de changer? Christiane Taubira faisait observer le silence du président de la République au moment des 20 ans de l'abolition de l'esclavage. Mais aux États-Unis, avec l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris, et après les réactions de Black Matters Life, eh bien, la perception et le jugement qui a eu lieu récemment de l'assassin de George Floyd prouvent qu'on assiste à une autre perception du peuple noir. Je vous propose d'écouter justement Kamala Harris, qui va rendre hommage à sa mère, à toutes les femmes, et en particulier aux femmes noires. C'était le 20 janvier 2021.
To the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her, and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders.
Quelle réaction éprouvez-vous quand vous entendez ce discours de Kamala Harris, qui est certes un discours politique, mais c'est un discours d'engagement, et puis c'est un discours sincère, même s'il est politique et prononcé à un moment très important de l'histoire très récente des États-Unis, Simone Schwarzbart?
Je pense que la littérature, et là on parle de littérature en quelque sorte, eh bien moi, je pense que la littérature s'adresse à l'esprit des hommes. Et c'est peut-être en révolutionnant l'esprit des hommes qu'elle peut contribuer à révolutionner le monde dans le meilleur des cas. Je crois que c'est avec des discours, avec des livres, avec il faut consigner, il faut c'est un impératif. Il faut que nous apparissions à nous-mêmes déjà, et apparaissant à nous-mêmes, nous apparaîtrons aux autres s'ils le veulent.
Et ce travail de mémoire, il n'est pas encore terminé, il ne fait que commencer pour vous.
Eh bien, je n'ai fait que cela, nous n'avons fait que cela, recoudre tout le tissu déchiré depuis le début, dans l'Afrique précoloniale, spoliée de tout son avenir, de tout aussi, non seulement de ses richesses bien sûr, mais également de sa richesse humaine. Nous n'avons fait que reprendre point à point toute cette histoire qui en fait est une histoire. Si on la questionne, c'est une histoire de la diagonale du mal sur la terre. Tout simplement de l'homme. Si il n'y avait pas dans l'homme quelque chose qui suscite chaque fois ces saisons du mal, s'il n'y avait pas cette persistance du cerveau reptilien, et pourtant nous venons des étoiles, mais s'il n'y avait pas cette persistance, le monde serait différent, les mondes, les saisons du mal seraient impossibles, tout ce que l'on voit. Il ne faut pas qu'il y ait des indignations préférentielles, il faut qu'il y ait indignation chaque fois qu'il y a lieu de l'être. Et il y a lieu de l'être si souvent, si si fréquemment à l'heure actuelle, qu'on a l'impression de revenir dans au temps biblique, dans des temps. C'est la cyclique du mal. On ne peut pas ne pas s'en apercevoir, et on ne peut pas ne pas combattre tous ces courants qui vous entraîne tout simplement dans l'ombre et dans les ténèbres. En fait, il y a une espèce de prédiction dans cette littérature et dans les sujets traités. Par exemple, je pense à Tigeant l'horizon et à la bête qui avale le soleil et aux ténèbres qui envahissent la terre. Et je pense aussi que peut-être bien qu'un jour un petit Antillais, je ne sais pas de quelle île, pourra changer la face des choses et ramènera un peu de soleil sur la terre.
Dans un ouvrage de conversation magnifique que vous avez fait avec Yann Plougastel l'an dernier, qui s'intitule « Nous n'avons pas vu passer les jours », vous dites à la fin de ce livre, Simone Schwarzbart, qu'après la mort de votre amoureux, une relation fusionnelle pendant des décennies, André, eh bien vous avez perdu tout courage. Ça a duré 2 ans, vous avez sombré dans une atonie, une dépression, une fermeture au monde. Et puis petit à petit, la vie est revenue. Est-ce que c'est la force de la littérature qui vous a donné la possibilité de réémerger de ce néant ?
Oui, c'est l'écriture qui m'a sauvée. C'est le fait de... C'est comme si j'avais abandonné ma vie en me fermant ainsi et que dorénavant, il n'y avait plus pour moi de soleil, justement. Que mes yeux étaient des vitres, étaient devenus des vitres dépolies. Et au fur et à mesure que je me réappropriais ma vie... en renouant avec l'écriture, en reprenant les mots, en reprenant les histoires, en parachevant ce que nous avions commencé et par là même en ressuscitant cette personne qui m'avait accompagné toute ma vie. Cette personne s'appelle André Schwarzbart. Cette personne qui a vécu, qui a mené une existence artistique, parce que il était 3 pas en arrière, toujours 3 pas en arrière du succès, 3 pas en arrière des honneurs. Il n'a pas mis en scène son décès, il n'a pas mis en scène sa vie. Il a été droit dans ses bottes. Il a toujours été fidèle à lui-même, fidèle à son peuple, fidèle à ses parents, fidèle à son histoire. Et c'est cela également qui m'a aidé et qui m'a été comme un impératif à renouer avec toute cette histoire, parce que c'est seul par elle pouvait ressurgir pour moi un sens à la vie, un sens que l'on donne. On ne peut pas vivre sans donner le sens à sa vie. Eh bien, en me réappropriant toute ma vie avec ces histoires, avec cette littérature de nouveau, eh bien, j'avais de nouveau des yeux qui pouvaient recevoir la lumière du soleil.
Vous écrivez en ce moment ?
Ah oui, il y a le dernier tome qui va venir et il y aura aussi mes nouvelles que je vais lui envoyer, parce que ces nouvelles parlent de personnes que nous avons connues.
Comment ça, lui envoyer ? À votre mari qui est dans le ciel, alors ?
Mais voilà.
Ah bon ?
Mais oui.
Et vous mettrez quoi sur l'enveloppe comme adresse postale ?
Elles arriveront. Oui, j'en suis sûre.
Ben, merci infiniment, Simone. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui sont tous disponibles en édition de poche. Et que là reparaît donc cet hommage à la femme noire. Nous attendons le nouveau tome qui sera signé donc de vous, et puis j'ai cru comprendre aussi que Tigeant l'horizon, dont vous avez évoqué le titre et l'ouvrage tout à l'heure, allait bientôt être adapté en bande dessinée.
Ah oui, quelle joie. En plus, le dessinateur est talentueux et son choix de texte est vraiment remarquable. Vraiment, je suis très 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 heureuse de cela.
Vous êtes la plus jeune d'entre nous. Merci infiniment, Simone.
Merci, Laurent.
Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand j'ai dansé le tcha-tcha-tcha. Quand j'ai dansé le tcha-tcha-tcha. quand je dansais le cha-cha.
La température a grimpé quand tu m'as raccompagné. Soudain j'ai trouvé une idée pour cacher ma timidité. C'était qu'une simple démonstration. Je t'ai pris à l'essai, juste une façon de faire diversion avant que ça dégénère. Appelle-toi, appelle-toi, appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi, quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi, quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, je suis essoufflé et je sue. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves pas. Yeah. Ramène-moi, ramène-moi. Si je reste, je vais faire des dégâts. Ramène-moi, ramène-moi. Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Bada boum boum patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha.
Et c'est avec tcha 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 de Bonnie Banane que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Simone Schwarzbard d'avoir pris le temps avant de retourner dans votre île de venir nous rendre visite. Je rappelle que votre livre « Hommage à la femme noire » est réédité chez Caraïbes Éditions. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Rémi Sistiaga qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Louise Tempero et à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Sayas pour son Very Good Trip.